emmène-moi. J'attends impatient ton retour. Là-bas, tout là-bas, c'est chez moi. C'est là qu'il y aura l'amour. Je ne veux pas me contenter de t'attendre. Enseigne-moi tes lois. Ta parole est pour moi si tendre. Pourtant tu exiges de moi. Mais c'est si bon quand tu es là. Et je tiens bon. C'est un don que j'ai en moi. Le sacrifice de Dieu pour moi. Ce que tu as mis dans mon cœur, rien ni personne pourra le changer. Annoncer Jésus comme sauveur, voilà c'est ma destinée. Bon quand tu es là, et je tiens bon, c'est un don que j'ai en moi, le sacrifice de Dieu pour moi.
Terriblement chaud hein, ici. Ouh, quand on sera un peu plus riche, on installera une clim. Ces derniers temps, j'ai prié pour pouvoir donner des réponses à plusieurs personnes qui m'écrivent sur Internet, soit sur le site, soit mais beaucoup sur mon mail, parce qu'ils voudraient avoir une connaissance au sujet de la prière pour les miracles, l'exaucement de la prière. Et ça m'est difficile de répondre à plusieurs questions parce qu'il y a des questions qui sont sans réponse. Alors voilà. S'il y avait des réponses à tout, on n'aurait pas besoin de la foi. C'est clair, c'est vrai. J'ai pensé que c'était mieux que je prépare une prédication, comme ça je réponds à tout le monde en même temps. Et puis, vous écoutez, vous prenez des notes, et puis je pense que c'est plus facile. Et puis, ceux qui ne posaient pas des questions auront des réponses, même sans avoir posé des questions, en écoutant Internet. Et puis, vous aussi qui êtes là ce matin. Beaucoup de chrétiens se demandent pourquoi Dieu répand ses bienfaits sur ceux qui ne demandent rien. C'est vrai, le soleil, la pluie, toutes ces choses, même des fois des guérisons extraordinaires. Et puis, d'un autre côté, beaucoup de prières restent, semble-t-il, sans réponse. Pourquoi ? Pour ma part, je crois qu'il nous faut nous souvenir des paroles de Jésus sur cette fameuse montagne où il a fait son sermon. Ses promesses ne sont pas inconditionnelles, jamais. Quand Jésus dit « Demandez et vous recevrez », si c'est un engagement absolu de Dieu, une sorte de « Sésame, ouvre-toi » ou « Flipendo », eh bien, ça deviendrait de la magie. Et celui qui prie serait un magicien. Et il suffirait d'aller trouver la personne qui prie pour pouvoir avoir à tous les coups, n'est-ce pas, ce qu'on demande. Mais quand même, il nous faut connaître quelques bases de la prière que nous sommes autorisés à faire en son nom. Premièrement, il y a une chose qui est claire. Jésus nous enseigne qu'on prie toujours le Père. C'est le Père, c'est-à-dire le Créateur. Celui qui est hors temps, qui est dans sa création, mais qui est en dehors de sa création, qui remplit tout en tout, qui est le Père Créateur. Et on le prie au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire au nom de ce que Dieu a fait quand il est venu se limiter dans un corps de chair ici-bas sur cette terre. On ne prie pas Jésus au nom de Jésus, on ne prie pas le Saint-Esprit, on prie Dieu le Père. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Mais il y a un ordre à observer. Bon, on peut être des bricoleurs. Et puis Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. On peut être des bricoleurs et prier le Saint-Esprit, et prier Jésus au nom de Jésus, et faire des gros mélanges, et puis sans rien comprendre, agir, marcher à l'aveugle. Non, il y a quand même des règles. Jésus dit que c'est le Père qu'on doit prier en son nom. D'accord? Ça, c'est clair. C'est déjà une base. Et puis quand on dit qu'on prie en son nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ, on dit qu'on est là devant le Père en train de demander quelque chose de la part de Jésus, en son nom. On est là en tant que, en quelque sorte, représentant de Jésus sur la terre. L'Esprit de Jésus vit en nous maintenant dans la chair et c'est en son nom que nous nous présentons devant le Père. C'est en son nom que nous prenons autorité contre la maladie ou contre ceci ou contre cela. C'est au nom de Jésus, ça veut dire... Alors, j'ai compris tout au long des années qu'il nous faut avoir beaucoup d'humilité. Dieu sait si nous sommes humbles ou si nous ne sommes pas humbles. Dieu le sait. Ce n'est pas pour lui qu'on prononce des paroles d'humilité. Ce n'est pas pour le convaincre que nous sommes humbles. Il sait que nous sommes humbles ou que nous ne le sommes pas quand nous prions. Par contre, les mauvais esprits, eux, ne savent pas. Ils ne savent pas ce qu'il y a dans notre cœur. Ils ne savent pas. Ils ne peuvent pas sonder notre cœur. Et c'est à cause d'eux, et aussi à cause des gens, qu'il nous faut avoir une attitude et des paroles humbles quand on commence à prier en vue d'un miracle. Est-ce qu'il faut être baptisé dans le Saint-Esprit pour avoir des miracles? Non. Il y a des baptistes qui prient et qui sont exaucés. Il y a des catholiques qui prient et qui sont exaucés. Ils ne parlent pas en langue. Mais on peut être exaucé la même chose, c'est la prière de la foi. Maintenant, quand on a le baptême dans le Saint-Esprit, c'est pour être témoin. Et être témoin, ce n'est pas faire seulement des œuvres miraculeuses, mais être témoin, c'est surtout manifester, n'est-ce pas, l'Esprit de Jésus, c'est-à-dire sa douceur, sa bonté, son amour, son humilité, c'est cela, avant la puissance. Parce que si vous avez la puissance des miracles, mais que vous n'avez pas le caractère, Frère Branham dit que c'est diabolique. Il a raison. Alors, les paroles humbles que nous prononçons sont des déclarations, sont des confessions de foi. Nous confessons que Jésus-Christ est notre Sauveur, nous confessons qu'il a effacé nos péchés, nous confessons qu'il ne subsiste rien contre nous dans les livres de compte au sujet de notre vie. Quand on prie pour quelque chose ou pour quelqu'un, c'est la première chose qu'on doit faire, se mettre vraiment à notre place, en confessant le nom de Jésus, en glorifiant son nom, en s'effaçant soi-même, en reconnaissant que sans le pardon de Jésus, on n'oserait même pas se tenir devant le trône. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu sait tout ça, mais les démons ne le savent pas et les gens ne le savent pas. Donc on doit le confesser, on doit le dire, afin que toute bouche soit fermée dans ce qui est matériel, mais aussi dans ce qui est spirituel, dans le monde spirituel. Il est toujours nécessaire de se souvenir qu'on ne prie pas premièrement, par exemple, pour un malade, pour qu'il soit guéri. C'est pas pour le malade qu'on prie. C'est pas pour qu'il soit guéri qu'on prie. On prie premièrement pour que le nom de Jésus soit glorifié. Ça peut paraître bizarre. Mais on prie pas pour que le malade soit guéri premièrement. C'est pas la raison première. Dans le cœur de celui qui invoque le nom du Seigneur, la priorité, ça doit être la gloire de Dieu. Beaucoup de prières ne sont pas exaucées parce qu'on demande des choses personnelles pour soi-même ou pour quelqu'un, parce que ça nous fait mal au cœur de voir cette personne dans cette situation, alors on demande. Et alors la Bible nous dit dans Jacques 4, 3 qu'on demande, on reçoit mal, on ne reçoit pas parce qu'on demande mal dans le but de satisfaire nos passions charnelles, c'est-à-dire nos désirs, notre volonté. On voudrait tellement, n'est-ce pas, qu'il soit guéri, on voudrait tellement que... Eh bien, on ne reçoit pas dans ces conditions-là. Ça paraît dur, mais mes frères et sœurs, on est des bricoleurs où on travaille consciencieusement pour le Seigneur dans les règles. Amen. Il y a des règles. Maintenant, on ne doit pas imposer les mains avec précipitation. Vous voyez que je réponds à des questions là, hein, qu'on pose. On n'impose pas les mains avec précipitation. C'est ça que ça signifie. Faire attention, ne pas se précipiter pour prier. D'abord, toujours se souvenir que c'est pour la gloire de Dieu avant toute chose. Se souvenir pendant un temps où on... Et ensuite, on confesse toutes ces choses que j'ai dites. On ne se précipite pas. On n'est pas des distributeurs de miracles. On n'est pas des distributeurs de guérison. On n'est pas des distributeurs de bénédiction. Ni nous, ni Dieu. On me demande parfois de prier pour qu'un examen soit réussi, ou pour qu'une personne trouve un mari ou une femme, ou pour que ses affaires professionnelles fonctionnent bien, marchent, pour qu'il y ait de l'argent qui rentre. On peut prier pour toutes ces choses. Bien sûr, Jésus dit qu'on peut prier pour tout. On peut prier pour toutes ces choses. Bien sûr. Mais pas avec précipitation. Pas avec précipitation. Il faut que celui qui prie, il ait une bonne position d'humilité et que la personne qui veut le miracle ait aussi une bonne position d'humilité devant Dieu. Fais pas du chantage à Dieu. Oui, Seigneur, tu as dit dans ta parole. Attends, il sait très bien ce qu'il a dit. Pas besoin de lui rappeler, hein. C'est de l'infantilisme spirituel de prier de cette manière-là. C'est comme des gamins qui sont dans le magasin devant le rayon des carambars et puis qui tapent du pied. Je veux. Non, c'est pas comme ça. Alors, c'est vrai qu'il arrive que Dieu accorde des miracles à des gens qui sont rebelles, à des gens qui ne pensent même pas à remercier Dieu après le miracle. Ça existe. Je me souviens d'une femme méchante qui blasphémait. Elle était connue pour ça et elle a été guérie miraculeusement. Elle a pleuré un coup. Et puis après, elle est redevenue, elle a continué à être méchante. Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi? Alors que je connais beaucoup de gens qui sont des saints véritables, des gens qui aiment Dieu, qui sont sincères, qui sont sérieux, qui sont sanctifiés, des gens fidèles, et puis qui restent malades, qui ne sont pas exaucés. Et puis je connais des cas spéciaux, comme par exemple mon chien Potter. Un jour, ma femme arrive dans le bureau en catastrophe, le chien hurlait, ils étaient fait piquer dans la gueule par une abeille. Et moi, je me suis assis sur le petit marche-pied, là, vous savez, dans l'entrée de mon bureau, et puis je lui ai imposé les mains au nom du Seigneur Jésus-Christ, chassant cette douleur, et il s'est calmé immédiatement. Il s'est mis à me lécher les mains, il remuait la queue, il est parti jouer. Est-ce qu'il a eu la foi? En tout cas, pas la foi avec une connaissance doctrinale, la guérison en quatre points ou des trucs comme ça. Vous voyez? Non. Mais je crois que l'amour de mon épouse, l'amour pour notre chien, l'amour pour notre Dieu, tout ça, ça s'est rencontré. Et puis voilà, et le miracle a eu lieu parce que c'est une simple histoire d'amour. Et puis je rends gloire à Dieu chaque fois que je peux. J'en parle pour glorifier le nom de Jésus. Alors Dieu a ses raisons, mais nous ne connaissons pas toujours les raisons de Dieu sur la terre, mais nous avons à respecter des lois de bienséance en présence de Dieu. Respecter ce qu'il a dit, faire comme il a dit, et non pas nous présenter devant les gens comme des espèces d'arrogants, sûrs de Dieu, qui va distribuer des bénédictions. Non, non, non. De l'humilité, surtout à cause des démons qui nous observent. Surtout à cause de ça. Ils sont toujours là, hein, ils regardent. Et puis après, ils vont vers Dieu et puis, t'as vu l'autre là? T'as vu? Il ne faut pas qu'ils puissent se moquer, ni de Dieu, ni de nous, quand nous prions. Alors, qui peut prier? Tous ceux qui croient que Dieu répond à la prière. Voilà, c'est tout simple. Qui peut imposer les mains? Tous ceux qui croient que Jésus sait ce qu'il dit quand il dit que tous ceux qui croient peuvent imposer les mains aux malades au nom de Jésus. C'est compliqué comme phrase, hein, mais c'est simple. Qui c'est qui peut imposer les mains? Tous ceux qui croient que Jésus sait très bien ce qu'il dit quand il dit que tout le monde peut imposer les mains aux malades s'il croit et s'il prononce le nom de Jésus pour sa gloire. Marc 16, 17, 18. Tout ce qui est le contraire de ça, c'est sectaire et religieux. À qui peut-on imposer les mains? Ben, aux malades, de préférence aux malades qui croient en Jésus, évidemment. Sinon, une fois guéri, il risque d'attribuer la guérison à la Vierge Marie, ou à vous, ou à je ne sais pas trop quoi, ou hasard, oh ben, de toute façon, ça aurait été mieux. Ou, moi, j'ai entendu de tout, hein, de tout. Faire attention, on apprend. Et s'ils ne sont pas guéris, ben, ils risquent de blasphémer en disant, ouais, pfff. Vous voyez, donc il vaut mieux avoir affaire à des gens qui sont déjà croyants. Peut-on prier en secret pour quelqu'un qui n'est pas croyant? Oui, bien sûr, on peut faire ça. Et Dieu agit sans s'occuper de ce que nous avons comme doctrine et toutes ces choses, toutes ces opinions. Cependant, j'annule pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Il faut vraiment que la prière exaucée donne gloire à Dieu. Amen. Donc, si vous priez en secret pour quelqu'un, peut-être parce que vous ne voulez pas lui dire, etc., etc., pour une raison ou pour une autre, dites-le à plein de monde autour, à d'autres personnes, pour que quand le miracle arrive, toutes puissent témoigner que vous avez prié. D'accord? Alors, on peut demander à Dieu de faire un miracle, ou on peut prendre autorité contre la maladie au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est deux choses différentes. C'est deux stades de vie spirituelle. On peut aussi prendre autorité, pas seulement contre la maladie, mais sur n'importe quoi. Sur n'importe quoi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. On peut dire aux montagnes de se déplacer, si on veut. On leur parle. Est-ce que vous avez déjà parlé à une montagne? Moi, rarement, parce qu'il y a rarement des montagnes qui me dérangent. En général, en Suisse, il y a toujours un très beau col. Donc, on n'est pas obligé de dire à la montagne de se tirer pour passer en Italie. On passe par le col, puis c'est très beau. Puis on... En haut, on achète des cartes postales. Non, mais je veux dire, on n'est pas... Voilà, c'est pour nous donner un exemple. On peut parler à la montagne, lui disant, passe de là à là, elle le fait. Dimanche passé, il y avait une dame qui avait un bassin qui était travers, vous vous rappelez? Et j'ai dit, le plus dur, c'est de parler à une montagne ou de parler à un bassin? Elle a éclaté de rire. Je dis, ben, vous voyez, c'est pas difficile. Donc, on va parler au bassin, il va se remettre en place. Vous croyez? Elle me dit, oui. J'ai parlé au bassin au nom du Seigneur, je lui ai ordonné. J'ai dit ce que je voulais et il l'a fait. Il s'est remis en place et cette femme n'avait plus de douleur. Gloire à Dieu! Amen. Donc, on peut parler, prendre autorité. On peut demander à Jésus de le faire, mais on peut aussi nous prendre autorité. On est revêtu d'une autorité. On peut le faire en son nom. Mercredi passé, c'était mercredi ou mardi, je ne sais plus, on était avec Michou chez les Gitans, et là, il y avait une femme, c'était la sœur de Raphaël, elle a eu un accident de voiture, et depuis, elle ne pouvait plus conduire sa voiture parce qu'elle ne pouvait plus bouger sa jambe. Donc, elle ne pouvait plus passer les vitesses correctement, elle la levait de 5-6 cm, pas plus, puis c'était des douleurs. Alors, puis en plus, elle avait de l'arthrose plein le dos. Alors, on a parlé un moment, rendu témoignage, glorifié le nom du Seigneur. Ensuite, on s'est humilié devant Dieu, on a confessé qu'il avait effacé nos péchés, qu'il n'y avait rien d'écrit contre nous, etc. Toutes les choses que je vous ai dites. Et puis, tout d'un coup, je change de ton et je m'adresse à la jambe. Et je dis, maintenant, tu fais ce que tu dois faire correctement. Tu as été créé pour marcher, tu as été créé pour bouger correctement. Tu bouges maintenant correctement au nom de Jésus. Puis, j'ai fait exercer sa foi. Et à sa plus grande surprise, elle avait sa jambe complètement libérée. Elle a couru dehors pour aller dire à sa fille qui était dans une caravane à côté, « Regarde !» Et puis elle faisait comme ça. Gloire à Dieu. Prendre autorité sur quelque chose, sur une jambe ou voilà, ou ce que vous voulez. On peut le faire. Les choses, la matière doit obéir au nom de Jésus. Il n'y a rien qui désobéit quand on parle au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors vous pouvez prendre autorité aussi contre des mauvais esprits, leur ordonnant de se taire, leur ordonnant de quitter des corps, leur ordonnant de quitter une maison. Vous en avez qui habitent des maisons, ils ne veulent pas sortir. Au nom de Jésus, on les dégage, on les fait partir. On a ce pouvoir. Et on peut aussi leur dire d'aller plus loin, de laisser la place aux anges de Dieu, de ne pas s'approcher de nous, de ne pas avoir une influence négative contre nous, d'une manière ou d'une autre, de ne rien faire contre nous, qui puisse nous déranger, qui puisse faire une interférence entre Dieu et nous. On les chasse au nom de Jésus. Et puis, on peut demander aux anges de Dieu de venir nous assister, nous inspirer, nous donner la paix là où il y avait de la discorde. Et tout ça, on peut demander, mais on peut aussi avoir autorité. Dire aux anges maintenant, venez du trône de Dieu, descendez. L'autre jour, j'ai prié pour une femme qui ne dormait pas, ça fait des années qu'elle ne dormait pas. La nuit même, elle a dormi comme un bébé. J'ai demandé à un ange, j'ai dit, oh, ange qui vient du trône de Dieu, qui t'occupe du sommeil des gens, tu descends sur cette personne pour qu'elle dorme. Elle a dormi. Elle a téléphoné le lendemain pour dire qu'elle a dormi. Gloire à Dieu! Voilà. Et il faut renouveler ça. Il faut pas. À chaque jour suffit sa peine, n'est-ce pas? On est là pour. On n'est pas que des êtres de chair, on est aussi des êtres spirituels. Mais dire au nom de Jésus, c'est pas comme prononcer une formule magique. J'entends souvent des gens qui font une prière, puis après ils disent au nom de Jésus. Comme s'ils disaient abracadabra. C'est ridicule. Parce que quand on prend le nom de Jésus, on utilise en fait le nom de Jésus. Et la Bible nous dit qu'on ne doit pas prononcer le nom de Dieu en vain, ou n'importe comment. Veillez bien à cela. Donc, pas de précipitation pour imposer les mains, pas de précipitation pour employer le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est sacré. La précipitation, ce n'est pas une bonne chose. C'est sacré. On ne parle pas n'importe comment, on ne prie pas n'importe comment, on ne bouge pas n'importe comment. Ce sont des choses saintes. Imposer les mains à quelqu'un, attention, ce que je vais vous dire là, c'est s'unir à la personne. Vous ne savez pas ça, hein? Si vous allez vous imposer les mains à un pécheur non repentant, vous vous associez à son péché. Vous saviez ça? Ah, vous ne saviez pas, hein? 1 Timothée 5, 22. Ne pose les mains sur personne avec précipitation, ne t'associe pas au péché d'autrui. Garde-toi pur, etc., etc. C'est sérieux, hein? C'est sérieux. C'est pourquoi moi, par exemple, eh bien, je refuse de bricoler dans l'œuvre de Dieu et je n'impose pas les mains aux gens qui sont possédés. Pas m'associer à ça. Les Africains, ils font ça. Ils se moquent de moi parce que je n'impose pas les mains aux possédés. Bon, ils font ce qu'ils veulent. Hein, quand je vois après la vie qu'ils ont, merci beaucoup, les coups de bâton qu'ils prennent dans les dents après, non, moi, j'en veux pas. Hein. Donc, je n'impose toujours pas les mains aux possédés. Ils font comme ils veulent. Alfred Kuhn, dans La Parole Vivante, il traduit 1 Timothée 5,22 ainsi. Écoutez, c'est très parlant. « Ne te décide pas trop vite à imposer les mains à quelqu'un, mais n'agis jamais à la légère ou dans la précipitation. Tu risquerais de te solidariser avec les torts d'autrui et de te trouver impliqué dans la responsabilité de ses manquements futurs. » Ça va loin. Ne te rends donc pas complice des péchés d'un autre. Garde tes mains nettes. Conserve-toi entièrement pur en toutes choses. Ça fait réfléchir. Nous, on fait. Moi, l'imposition des mains, c'est un acte sacré. C'est un acte sacré. C'est une ordonnance sainte. On ne bricole pas avec ça. Il y a des réunions en Afrique ou en Amérique, et maintenant ça vient en France aussi, où tout le monde s'impose les mains dans la réunion. On a vu ça aussi. Imposez les mains aux gens qui sont à côté de vous, autour de vous, devant vous, derrière vous. Moi, quand ils font ça, je m'enfuis, je vais me cacher dans un coin. Pourquoi je fais ça? Je refuse absolument qu'une personne que je ne connais pas m'impose les mains. Et je m'unis avec elle, là. Là, qu'est-ce qu'elle est, elle? Je ne la connais pas, je ne sais pas. On ne peut pas toujours tout savoir sur quelqu'un, mais quand on ne sait rien, mais il vaut mieux s'abstenir. Ne faites pas avec précipitation des choses comme ça. C'est de l'enfantillage. C'est à cause de doctrines stupides, à cause de croyances déformées que les gens font des choses pareilles. C'est du bricolage. Et mes frères et sœurs, ça propage des tas de mauvaises choses dans l'Église. Vraiment, ça propage des tas de mauvaises choses dans l'Église. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a des ondes partout? Tout émet. Il y a des ondes partout. On ne les voit pas, les ondes. Et pourtant, elles sont drôlement là et drôlement efficaces, nuisibles. Vous savez, par exemple, ça, là, téléphone, c'est très nuisible. Ça dégage des ondes. Il y a des moyens pour neutraliser ces ondes, pour pas qu'elles nous fassent du tort. Là, c'est dans le domaine, qui n'est pas spirituel. C'est les ondes, c'est de l'électromagnétisme. Mais dans le domaine spirituel, c'est la même chose, si vous voulez. Parce que vous ne voyez pas les mauvais esprits. Mais ils sont là. Ils sont là, assis sur le. Comme dans les bandes dessinées, hein. Le petit diable assis sur l'épaule de la bonne femme. Puis vous mettez vos mains dessus, vous. Tiens! Jamais! Vous vous laissez une bonne femme, on ne sait pas, vous imposez les mains, comme ça dans l'église, n'importe qui, on ne sait pas ce qu'ils font derrière. Non, croyez-moi, il y a dans des églises des drôles de gens. Il y a beaucoup de sorciers qui rentrent dans les églises. Il y a des sorciers, des sorcières. Vous n'y croyez pas? Tant pis pour vous, continuez, si vous êtes content comme ça, c'est bien. Mais il y a des sorciers, des sorcières qui rentrent dans les églises, et puis vous les voyez louer Dieu. Oh Dieu, je te loue, je t'adore. Oh mon Dieu, je t'aime, alléluia. Un jour, la sœur Camélia, la maman spirituelle, la maman de Violette, la belle-mère de Raphaël, était dans sa caravane avec des femmes, priaient. Et il y en avait une qui disait, oh Dieu, je te loue, je t'adore. Comment ne pas te louer, comment ne pas bénir? Camélia lui dit, tais-toi. Toutes les femmes sortaient. Toutes les femmes sont sorties. Il dit, comment ça se fait que tu loues le diable? Puis la femme dit, comment tu sais? Elle dit, Dieu me l'a révélé. Tu dis Dieu, mais ton Dieu, c'est le diable. Elle était en train de louer le diable. Vous voyez, ben, il y en a dans les églises qui viennent. Mais vous voyez une église de 300 membres, peut-être sûr qu'il y en a au moins deux. Vous ne croyez pas? Libre à vous. Moi, je vous le dis, ça fait 43 ans que je pratique ça. Je sais ce que c'est. Et je connais, je sais comment ça se passe. Raphaël, il me disait l'autre jour que... Quand il faisait des réunions, là, parce que maintenant il ne fait plus, il est âgé, ben, il y avait Camélia qui était là, elle était assise au fond de la salle, puis elle faisait. Ils avaient des petits signes entre eux, parce qu'elle, elle avait le discernement des esprits, et elle lui disait qui c'est qui avait le bang, comme ils disent, les gitans, c'est-à-dire le diable. Eh oui, ils travaillaient en collaboration, Raphaël et elle, et comme ça, Raphaël, il ne faisait pas de bêtises. Il ne posait pas les mains à certaines personnes. Vous voyez, il faut travailler avec le discernement, on ne fait pas n'importe quoi. C'est pas de la rigolade, c'est pas de l'amusement, c'est pas du bricolage. Ils sont là, ils louent Satan, leur Dieu, et puis c'est comme ça. Croyez-moi, ça fait 43 ans, comme je vous dis, que j'impose les mains, je sais de quoi je parle, j'en ai vu toutes les couleurs. Demandez, vous recevrez. Ça paraît simple, hein, vous voyez? Ça paraît simple, mais c'est pas si simple. Parce que Dieu donne que des bonnes choses, et il sait ce que c'est les bonnes choses. Pour chacun. J'ai prié pour un cher frère, un ami, il y avait un cancer, ben il est mort. Non, maintenant, la question qu'on se pose, mais qu'est-ce qui était le meilleur pour lui? Ben, vous voyez, alors on se pose la question, qu'est-ce que c'était le meilleur pour sa famille? C'est terrible. Mais notre troisième question, qui peut connaître l'avenir si cet homme avait vécu? On ne sait pas, il y a des tas de choses, on ne sait pas. C'est pourquoi je dis, on n'a pas toutes les réponses, il faut rester dans l'humilité. Pas hypocritement, mais parce qu'on a vraiment de bonnes raisons d'être dans l'humilité. Si Dieu avait exaucé selon sa promesse, demandez, vous recevrez. On ne sait pas ce qui se serait passé après. Je pose une question. Qu'est-ce qui était bon pour Saphira? Vous connaissez l'histoire, la Bible, hein? Et pour la communauté naissante, qu'est-ce qui était bon pour la communauté naissante? Ils ont tous été saisis de crainte. Pierre, il était sûr de Dieu, il était sûr d'avoir l'autorité, et il n'a pas bricolé. Qu'est-ce qui était bon pour Elimas, qui est devenu aveugle? Paul, il a fait ça, il n'a pas fait que de rendre la vue aux aveugles, il a aussi rendu les gens aveugles. Vous saviez ça? Elimas, acte 13, 8, 12. Qu'est-ce qui était bon pour Elimas? Ça lui a pris quelque chose, hein? Terrible. Et qu'est-ce qui était bon pour le gouverneur qui a assisté à la scène? Un homme politique qui assiste à la scène. Dis donc, si je vais là chez les politiciens et puis que je rends l'un d'eux aveugle, eh ben je vais me retrouver en prison, moi. Hein? À l'époque, non. Le gouverneur, il était saisi et il a cru à cause de ça. Qu'est-ce qui était bon? Ça. Mais Paul, il ne bricolait pas. Il savait jusqu'où il pouvait aller. Il connaissait son Dieu. Il était sûr de Dieu, sûr de lui. Il était en relation avec Dieu. Et il agissait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, pas ça, simplement avec la formule au nom de Jésus, mais en communion avec Dieu. Vous voyez, mes frères et sœurs? Bricoleur de Dieu. Vous voyez, c'est une grâce pour un disciple de Jésus-Christ que l'exaucement de sa prière ou de sa prise d'autorité, ne dépendent pas seulement de la façon de demander, de chercher ou de frapper. Hein, on a vu, demander, chercher, frapper. Ça ne dépend pas que de ça, mais ça dépend surtout du bien fondé de la demande ou de la prise d'autorité. Heureusement! Mais vraiment, mes frères et sœurs. Que dire? Eh bien, Écoutez bien la phrase, parce que sinon vous allez dire que je dis des bêtises. La simplicité de la promesse de Jésus, demandez et vous recevrez, est trompeuse. Je dis bien, pas la promesse n'est pas trompeuse, mais la simplicité de la promesse, elle est trompeuse. Parce qu'il y a une nuance là, la simplicité de la promesse est trompeuse. Cette simplicité a des exigences. Premièrement, par exemple, la connaissance de Dieu, connaître Dieu. Parce qu'il faut, quand même bien réaliser que Dieu n'accorde ses bienfaits que s'ils sont en accord avec ce qu'il veut. Bien sûr que Jésus est venu, il a porté nos péchés. Bien sûr que Jésus est venu, il a porté nos maladies. Bien sûr que Jésus est celui qui pourvoit nos besoins. Mais il y a des fois, vous avez vu les questions que j'ai posées. Qu'est-ce qui était bon pour Saphira? Qu'est-ce qui était bon pour Elimas? Qu'est-ce qui était bon pour le gouverneur? Les bienfaits que Dieu nous accorde sont ceux qui sont en accord avec ce qu'il veut dans le cas présent, dans le cas précis. Et c'est à nous de chercher ce qu'il veut. C'est à nous de chercher la volonté de Dieu. C'est à nous d'être des gens de prière. Pas seulement de prière quand il y a un cas où il faut prier, mais un cas de prière. Il faut pas être des prieurs dans les moments où on nous demande de prier, mais il faut être des gens de prière en esprit, en vérité, tout le temps, prier sans cesse, nous dit l'apôtre. Hein? Avoir une vie de prière. C'est à nous de chercher ce qu'il veut dans les Écritures, en ayant une vie qui est en accord avec ce qu'il veut. Et puis je vais vous dire, passer du stade de la connaissance de la volonté de Dieu au stade de l'humble confiance qu'il veille sur sa volonté pour qu'elle s'accomplisse, c'est pas une chose pour les bricoleurs, c'est pas une chose pour les gens qui réfléchissent pas. Dieu nous a donné une intelligence, c'est pour qu'on s'en serve. Alors bien sûr aussi que moi je ne savais pas toutes ces choses. 3 jours après m'être converti, quand j'ai prié pour mon premier paralytique et puis qu'il était guéri, je ne savais pas toutes ces choses. Bien sûr, je ne savais pas. Mais avec le temps, j'ai appris. On ne peut pas dire, oh voilà, il faut imposer les mains aux malades, les malades seront guéris, point, donc on le fait, voilà. Non, il faut apprendre, il faut progresser, il faut chercher, il faut avoir cette humilité de se dire, je ne sais pas tout, j'ai encore des choses à apprendre. Donc j'ai appris, avec le temps j'ai appris, et je vais vous dire, j'ai pas appris à l'école biblique, non. Pourquoi? Parce qu'à l'école biblique, c'est des docteurs qui enseignent, les docteurs en général, ils font pas de miracles. Les docteurs, ils font pas de miracles, ils sont docteurs. On n'est pas tous des faiseurs de miracles, on n'est pas tous des docteurs, on n'est pas tous des apôtres, on n'est pas tous des prophètes. Et les docteurs qui enseignent dans les écoles bibliques, ils peuvent vous enseigner la théorie, mais ils peuvent pas vous parler de la pratique de ces choses, parce qu'ils connaissent pas. Donc c'est pas à l'école biblique qu'on apprend ces choses. C'est sur le terrain qu'on apprend ces choses. J'ai fait 3 écoles bibliques. Je sais aussi de quoi je parle. Alors après avoir beaucoup travaillé, après avoir fait beaucoup d'erreurs, depuis 68, hein, vous savez, j'ai fait des erreurs, j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais je les ai fait honnêtement. Vous vous rappelez ce que je vous ai prêché sur l'honnêteté vendredi passé? Je les ai fait honnêtement, mes erreurs. C'est pourquoi Dieu ne m'a jamais puni pour ces erreurs-là. Jamais. Il ne m'en a jamais voulu, il ne m'en tient pas rigueur. C'était des erreurs faites par amour pour les gens. C'était des erreurs faites par amour pour Dieu. Je voulais tellement que Dieu se glorifie. Je voulais tellement que les malades soient guéris. Je voulais tellement, n'est-ce pas, tout de suite, là, instantanément, au nom de Jésus. Il n'y avait pas un gramme d'orgueil dans mon cœur. Pas un gramme. Alors le Saint-Esprit m'a aidé et j'ai continué toujours, sans me relâcher, à aimer Dieu, à aimer les gens, à continuer à me relever quand, des fois, parce que j'étais abattu à cause des bêtises que je faisais. J'en ai vu par contre qui ont arrêté de prier parce qu'ils ont dit ça marche pas, je prie mais il n'y a rien, donc j'arrête. Puis ils ont arrêté, puis ils sont découragés. Et ils privent Dieu de sa gloire et ils privent les gens des bienfaits de Dieu comme ça. Tout simplement parce qu'ils sont découragés. C'est-à-dire leur ego s'est laissé impressionner, puis voilà. Puis, vous voyez, c'est grave, c'est dommage. Mais moi, je n'ai jamais arrêté parce que je suis appuyé sur la promesse. Sur la promesse, demandez, vous recevrez. Et je me disais toujours, et je continue toujours à me dire, que de toute façon, Dieu a raison. Dieu, il sait ce qu'il fait. Et moi, je dois apprendre. Et j'apprends encore. Je ne sais pas tout. Je me vois toujours à Vevey, j'avais 18 ans. Ça faisait quoi, une semaine et demie que j'étais converti. Et Raphaël, il me prenait prier avec lui pour les malades. C'est un homme de foi, hein. On ne peut pas comprendre un homme de foi. Personne ne peut comprendre un homme de foi. Personne ne peut juger un homme de foi. Ce n'est pas possible. Et Raphaël avait raison de le faire, de me prendre avec lui. Et puis, je me suis acharné sur une gamine, là. Je vois toujours cette petite fille, elle devait avoir, je ne sais pas, 7, 8 ans. Elle était sourde, mais sourde, elle n'entendait rien du tout. Et je priais, je faisais comme ça pour voir si elle n'entendait rien du tout. C'était terrible. Et je continuais, j'en suais, j'en étais. Et je voulais absolument qu'elle soit guérie. Et rien s'est passé, rien. J'ai vu cette gamine partir avec ses parents tout triste. C'était terrible. Je suis sorti de cette réunion. J'étais complètement détruit. Pour moi, c'était la fin du monde. C'était la première fois que Dieu m'exaucait pas. C'était horrible. C'était affreux. Là, parce que depuis que je me suis converti, là, le 1er juin, il n'y avait eu que des miracles. Toutes les prières que je faisais avaient été exaucées. Puis là, pouf, un échec. Mais j'étais détruit. J'ai dit, ça y est, Dieu m'a abandonné. C'est fini. Je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi. Puis ça t'aurait coûté quoi de la guérir, hein? Je disais comme ça, Dieu. Ça te coûtait quoi de la guérir? Ça t'aurait fait quoi de cette pauvre gamine, là? Rien du tout. Tu dis un mot, elle est guérie. Et tu le fais pas? Mais je comprenais plus, j'étais révolté presque. Hein. J'étais troublé, très profondément troublé. Mais le lendemain, je suis retourné à la réunion, je me suis assis dans les rangs. Puis quand Raphaël m'a dit, allez, tu viens prier avec moi pour les malades? Eh ben, je me suis soumis à l'autorité. L'autorité, c'était Raphaël. Et je me suis soumis et j'ai continué et il y a encore eu des guérisons. Alléluia. Alors cette pauvre gamine, pourquoi? Mais je sais pas pourquoi. Dieu l'a pas guérie. Je sais pas. Il faut être humble. Je connais pas les raisons de Dieu, mais je sais que les raisons de Dieu sont les meilleures. Dieu a toujours raison. Amen. Il y a des questions qui restent sans réponse et qui nous gardent dans l'humilité, et puis dans une certaine souffrance que personne ne peut comprendre. Les personnes qui manifestent pas ces choses-là ne peuvent pas comprendre cette souffrance. On est seul avec ça. On est seul avec ça. Il n'y a personne qui peut vous aider. Même pas un grand docteur de théologie. Alors il faut être humble. Dans la véritable église de Jésus-Christ, dans l'église restaurée, il y a des gens qui ont des dons de guérir. Et puis d'autres pas. Puis voilà. Pour ceux qui n'ont pas le don, est-ce qu'il ne faut pas qu'ils prient pour les malades? Si, il faut prier pour les malades, bien sûr. Il faut prier la prière de la foi. Il faut prendre autorité au nom de Jésus par la foi. Il va y avoir des guérisons, c'est sûr. Mais ça ne va pas être tout à fait la même chose. Ça restera un peu épisodique. Parce que ce n'est pas que Dieu ne veut pas exaucer ceux qui prient avec foi et qui préfèrent ceux qui ont un don. Ce n'est pas ça la question. C'est que les gens qui ont un don de guérir, en général, c'est parce qu'ils ont une passion pour les gens malades. Alors que les autres, ben c'est épisodique. Vous voyez la différence? Ce n'est pas la guérison qui est épisodique. C'est l'intérêt pour le malade. Ça va être tout d'un coup, oh, il est très intéressé par un malade parce que c'est sa maman, ou c'est parce que c'est sa petite sœur, ou c'est parce que c'est... Vous comprenez? Mais il ne va pas aller chercher les malades pour prier pour eux. Vous voyez? On va lire 1 Corinthiens 12, 27, 31. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres. Deuxièmement, des prophètes. Troisièmement, des enseignants. Puis ensuite, viennent les miracles. Puis, les dons de guérison. Et ensuite, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Réponse. Non. Tous sont-ils prophètes? Non. Tous sont-ils enseignants? Ben non. Tous font-ils des miracles? Non. Tous ont-ils des dons de guérison? Non. Tous parlent-ils en langue? Non. Tous interprètent-ils? Non. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais vous montrer une voie par excellence, et la voie par excellence, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13, le chapitre qui vient tout de suite après. Qu'est-ce que c'est le don le meilleur? Aspirez au don le meilleur. Eh bien, pour moi, le don de meilleur, ça va être ça. Puis pour vous, le don le meilleur, ça va être autre chose. Parce que ça va dépendre de la nature que vous êtes, la personne que vous êtes, quel membre du corps de Christ vous êtes. Par exemple, mes pieds n'ont aucun don pour me coiffer. Est-ce que vous comprenez? Mes dents n'ont aucun don pour me gratter le dos. Vous voyez? Quel membre êtes-vous? Eh bien, suivant la nature du membre que vous êtes, tel et tel don va vous paraître le meilleur, alors priez pour l'avoir. Attachez-vous à ça. Et puis voilà, c'est tout, c'est ça. Il n'y a pas de don meilleur que l'autre. C'est par rapport à votre nature. Alors il y en a qui disent, ah vous voyez, tous ne parlent pas en langue. Mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas bien les Écritures. Il y a deux sortes de parler en langue. Je dis ça entre parenthèses, ça n'a rien à voir avec la guérison. Mais vous avez le parler en langue qui est pour tous. Tous ceux qui croiront, ils parleront de nouvelles langues. C'est écrit dans Marc 16. Pour leur édification personnelle. Ça, c'est pour tout le monde. Tout le monde. Tous ceux qui croient peuvent parler en langue pour leur édification personnelle. Mais ensuite, là, il est en train de parler des dons pour l'Église, pour l'édification de l'Église. Et en cela, tous n'ont pas le don de parler en langue dans l'Église pour ensuite avoir une interprétation pour bénir l'Église. Là, tout le monde n'a pas ce don. Vous voyez, est-ce que c'est clair? Donc, ce sont des questions, il faut connaître les Écritures pour bien comprendre. Les baptistes n'ont pas compris ça, puis ils disent, vous voyez, tout le monde ne parle pas en langue, ben nous, on ne parle pas. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'il y a deux sortes de parler en langue. C'est tout. Alors, pour la guérison, eh bien, il y a la prière de la foi, il y a l'autorité au nom de Jésus, et puis il y a aussi le don, celui qui a le don de guérir. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions, et que ça vous a éclairé, et que si c'est quelque chose qui vous intéresse particulièrement, que vous avez de l'amour pour les gens qui souffrent, eh bien, prenez, cherchez, ramassez ce don, prenez-le, mettez-le en pratique. Vous allez certainement faire des erreurs comme j'en ai faites, et puis vous allez apprendre, on apprend en faisant des erreurs, et Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance, et Dieu ne vous punira pas d'avoir fait des erreurs quand elles sont faites honnêtement, c'est-à-dire avec un bon cœur, avec sincérité, simplement par manque de connaissance, mais la connaissance doit augmenter. Vous devez apprendre, apprendre et apprendre et apprendre encore. Tant que vous, si un jour vous dites je sais tout, vous êtes fichu. Vous n'êtes plus dans l'humilité, ça s'arrête. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Donc, nous avons tous une part, nous avons tous quelque chose et il faut le manifester. Qu'est-ce que vous avez? Quel membre êtes-vous? Qu'est-ce que vous avez? Ben, manifestez ce que vous êtes, que Dieu soit béni. Amen. Merci Jésus de bénir ces paroles que j'ai dites là ce matin. Que cela puisse aider ceux qui m'ont posé des questions et qu'ils puissent ainsi manifester le meilleur pour ta gloire et pour les gens. Que ton nom soit béni, mon Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur de nous donner des forces.